Livre 12, chapitre 2 où, quoique M. Weston ne trouve pas sa fille, il trouve quelque chose qui met fin à sa poursuite. Il faut nous en retourner maintenant à l'auberge d'Upton, d'où nous suivrons les pas de M. Weston. Comme son voyage ne sera pas long, nous aurons alors tout le loisir de nous occuper de notre héros. Le lecteur voudra bien se rappeler que M. Weston quitta l'auberge dans un transport de fureur pour se mettre à la poursuite de sa fille. Le valet d'écurie l'ayant informé qu'elle avait traversé la Severn, il passa aussi cette rivière avec sa suite et prit le grand galop, jurant la plus terrible vengeance contre la pauvre Sophie s'il pouvait parvenir à la rejoindre. Il arriva bientôt à un carrefour en forme de croix. Il s'y arrêta un moment pour y tenir un petit conseil de guerre, après lequel il laissa au hasard le soin de le diriger dans sa poursuite, et prit sur le champ la route de Worcester. Il avait fait 2 milles environ sur cette route quand il se mit à se lamenter très amèrement, en s'écriant à plusieurs reprises « Quel désespoir! Sûrement il n'y a jamais eu d'homme aussi malheureux que moi !» Et puis il lâcha une bordée de jurements et d'imprécations. Le ministre qui l'accompagnait essaya de le consoler en cette occasion. « Ne vous chagrinez pas, lui dit-il, comme ceux qui n'ont plus d'espérance. Quoique nous n'ayons pas encore pu rejoindre Notre-Dame, nous devons déjà regarder comme un bonheur d'avoir réussi à suivre ses traces jusqu'ici. Probablement, elle sera bientôt fatiguée et s'arrêtera dans quelque auberge pour y reprendre de nouvelles forces. Et dans ce cas, d'après toute la présomption morale, vous serez très incessamment compos voti, au comble de vos vœux. » Ah, bien oui, répondit Weston, que le diable emporte la traînée. Je déplorais la perte d'une si belle matinée pour la chasse. Il est cruellement dur de perdre un des jours les plus beaux de la saison, suivant toute apparence, et surtout après une aussi longue gelée. Soit que la fortune, qui montre de temps en temps quelque compassion pour les malheureux qu'elle persécute de mille manières, plus bizarres les unes que les autres, eût pris pitié de M. Weston, soit qu'ayant résolu de ne pas le laisser rejoindre sa fille, elle eût eu le projet de l'en dédommager de quelque autre manière, à peine eut-il prononcé les paroles que nous venons de rapporter, qu'une meute de chiens fit entendre sa voix mélodieuse à peu de distance. Le cheval de M. Weston et son cavalier dressèrent aussitôt tous deux les oreilles, et M. Weston s'écria « La bête est passée, elle est passée !» Le diable m'emporte si elle n'est pas passée. » Tout en disant ces mots, il enfonce ses éperons dans le ventre de son cheval, qui n'en avait pas besoin, ayant à cet égard, il faut le dire, la même inclination que son maître. Alors toute la compagnie, traversant un champ de blé, se mit à galoper droit au chien, en faisant un concert de taillot, taillot, tandis que le pauvre ministre faisait l'arrière-garde, en se récriant sur cette folle diversion. Ainsi la belle Grimalkin, que, si l'on en croit la fable, Vénus, à la prière d'un amant passionné, métamorphosa de chatte en jolie femme, n'aperçut pas plutôt une souris que, se rappelant ses anciens jeux et conservant encore ses anciennes habitudes, elle sauta du lit de son mari pour poursuivre le petit animal. Que devons-nous entendre par cette fable? Non que la jolie mariée fût mécontente des caresses de son nouvel époux, encore ivre d'amour, car bien qu'on ait remarqué que les chats sont sujets à l'ingratitude, il est de certaines occasions où les femmes, et les chattes aussi, sont reconnaissantes et ronronnent. La vérité est, comme l'ingénieuse sœur Roger Lestrange l'observe dans ses profondes réflexions, que si vous chassez la nature par la porte, elle reviendra par la fenêtre, et qu'une chatte, quoique devenue femme, continuera à prendre des souris. Nous ne devons donc pas accuser M. Weston de manquer d'amour pour sa fille, car il en avait réellement beaucoup. Mais considéré qu'il était gentilhomme et chasseur, et nous pouvons ensuite lui appliquer la fable ci-dessus et les judicieuses réflexions auxquelles elle a donné lieu. Les chiens couraient ventre à terre, comme on dit, et M. Weston les poursuivait en franchissant haies et fossés, avec ses vociférations, son ardeur et sa gaieté accoutumée. L'idée de Sophie ne vint même pas une seule fois se mêler au plaisir qu'il goûtait à cette chasse, l'une des plus belles, disait-il, qu'il eût jamais vue. Elle mériterait, ajouta-t-il en jurant, qu'on fît 50 000 pour en jouir. M. Weston ayant oublié sa fille, nous n'aurons pas de peine à croire que les domestiques oublièrent leur maîtresse. Et le ministre, après s'être dit à lui-même en latin combien il était étonné de tout cela, finit comme tous les autres par oublier la jeune dame, et tout en trottant à quelque distance de la compagnie, se mit à méditer sur un point de doctrine dont il devait entretenir ses paroissiens le dimanche suivant. Le gentilhomme à qui les chiens appartenaient fut extrêmement charmé de l'arrivée de son confrère gentilhomme et chasseur, car tous les hommes approuvent dans les autres le genre de mérite qu'ils possèdent eux-mêmes, et personne n'était plus versé que M. Weston dans la science de poursuivre un animal dans la plaine, et ne possédait à un plus haut degré le talent d'encourager les chiens par ses cris et d'animer la chasse par ses « taillots, taillots ». Les chasseurs, dans la chaleur de l'action, sont beaucoup trop préoccupés pour songer le moins du monde à être polis, et même à remplir les devoirs de l'humanité les uns envers les autres. Car s'il arrive à l'un d'eux de tomber dans un fossé ou dans une rivière, les autres passent sans y prendre garde et l'abandonnent communément à sa fatale destinée. Il ne faut donc pas s'étonner si les deux gentilshommes, quoique galopant souvent côte à côte, ne se dirent pas un seul mot. Cependant, le maître de la chasse apercevait clairement et admirait le jugement exquis que montrait l'étranger à redresser les chiens quand ils étaient en faute, et concevait de là une très haute opinion de son mérite. Le nombre de ceux qui le suivaient ne lui inspirait pas un respect moins profond pour sa qualité. Aussitôt donc que la chasse fut finie par la mort du petit animal qui en avait été l'objet, les deux gentilshommes vinrent à la rencontre l'un de l'autre, se saluèrent et se complimentèrent à la manière des gentilshommes campagnards. Leur conversation fut assez piquante, et telle que nous la rapporterons peut-être dans un supplément ou quelque autre part. Mais comme elle ne concerne aucunement cette histoire, nous ne pouvons prendre sur nous de lui donner place ici. Elle se termina par une seconde chasse, et celle-ci par une invitation à dîner. Le dîner fini, l'on se mit à boire avec courage, et M. Weston s'endormit profondément. Il ne trouva pas ce soir-là de force à soutenir la concurrence de son hôte, ni du ministre Supple. La fatigue violente qu'avait éprouvée son esprit aussi bien que son corps suffisait pour l'excuser, sans déroger le moins du monde à sa haute réputation de buveur intrépide. Dès la troisième bouteille, il était en effet, pour me servir d'une expression vulgaire, ivre-mort, et tellement anéanti que, quoiqu'on ne le portât au lit que longtemps après, le ministre le considéra dès lors comme absent. Et qu'après avoir instruit leur hôte de tout ce qui concernait Sophie, il profita de la circonstance pour l'engager à le seconder lorsqu'il presserait le lendemain matin M. Weston de retourner chez lui, ce qui lui fut promis. Le lendemain matin, en effet, M. Weston ne fut pas plus tôt réveillé qu'il demanda un verre de sa boisson accoutumée et ses chevaux pour recommencer sa poursuite. M. Supple se mit aussitôt à l'en dissuader, et leur hôte le seconda si utilement qu'ils l'emportèrent enfin, et que M. Weston consentit à retourner chez lui. S'il céda surtout à cet argument, c'est qu'il ne savait quel chemin prendre et qu'il pouvait tout aussi bien, et plus probablement encore, s'éloigner de sa fille que s'en rapprocher. Il prit alors congé de son confrère le chasseur, et après avoir témoigné une grande joie de ce que la gelée était finie, motif le plus puissant de tous peut-être pour lui faire hâter son retour, il se remit en route, ou plutôt il reprit celle de Somersetshire, non sans avoir d'abord dépêché une partie de sa suite à la recherche de Sophie, à laquelle il adressa, par la même occasion, les plus violentes imprécations que sa rage put inventer. Chapitre 3. Jones quitte l'auberge d'Upton, ce qui se passe sur la route entre Partridge et lui. Enfin, nous voilà encore revenus à notre héros, et, à dire vrai, nous avons été obligés de le quitter si longtemps que, considérant l'état où nous l'avons laissé, je crains bien que beaucoup de nos lecteurs n'en est conclu que nous avions le projet de l'abandonner pour toujours. Sa situation étant de la nature de celle dans laquelle les gens prudents cessent assez communément de demander des nouvelles de leurs amis, de peur d'avoir le chagrin d'apprendre qu'ils se sont pendus. Mais, dans le fait, si nous n'avons pas toutes les vertus, je dirais hardiment que nous n'avons pas non plus tous les vices d'un caractère prudent. Et quoiqu'il ne soit pas aisé de concevoir une situation beaucoup plus misérable que celle où se trouve en ce moment le pauvre Jones, nous allons revenir à lui et lui tenir aussi fidèle compagnie que si la fortune l'avait placé dans la position la plus brillante. Or donc, M. Jones et son compagnon Partridge quittèrent l'auberge peu de minutes après le départ de M. Weston et suivirent la même route à pied, le valet du curé leur ayant dit qu'il n'y avait pas moyen de se procurer pour le moment des chevaux à Hampton. Ils marchaient tous deux, le cœur également oppressé, car, quoique leur chagrin provint de causes fort différentes, tous deux étaient réellement malheureux, et si Jones soupirait amèrement, Partridge grognait tristement à chaque pas. Quand ils arrivèrent à ce chemin en croix, où Weston s'était arrêté pour tenir conseil, Jones s'arrêta aussi, et se tournant vers Partridge, lui demanda son opinion sur la route qu'il fallait suivre. « Ah, monsieur, répondit Partridge, je souhaiterais que monsieur voulût suivre mon conseil. »« Pourquoi ne le suivrais-je pas ? » reprit Jones. « Que m'importe maintenant où je vais et ce que je deviendrai. » ?»« Mon avis, donc, dit Partridge, est que vous fassiez sur le champ volte-face et que vous vous en retourniez à la maison. Car quiconque a une maison comme celle de monsieur, où il peut s'en retourner, doit-il ainsi courir les champs comme un vagabond ? Je vous demande pardon. Cette vox ea sola reperta est. Mais je ne trouve pas autre chose à vous conseiller. Hélas, s'écria Jones, je n'ai plus de maison où je puisse m'en retourner. Mais quand mon ami, mon père, voudrait me recevoir, pourrais-je supporter le pays que Sophie a quitté ? Cruelle Sophie ! Cruelle ? Non, je ne dois blâmer que moi seul. Non, c'est toi, Marot, que je dois blâmer. Que le diable t'emporte, sot, imbécile que tu es. Tu m'as perdu et je veux t'arracher l'âme. » À ces mots, il saisit avec fureur le pauvre Partridge au collet et le secoua plus rudement qu'aucun accès de fièvre ou de peur n'avait encore fait auparavant. Partridge tomba à genoux, tremblant, et cria miséricorde, en jurant qu'il n'avait pas eu de mauvaises intentions. Jones, après l'avoir regardé un moment d'un œil farouche, le lâcha et tourna sa rage contre lui-même avec un tel excès que si elle fût tombée sur son compagnon, elle eût certainement mis fin à son existence, ce que la crainte seule de cet accident avait presque déjà fait. Nous prendrions volontiers la peine de décrire en détail toutes les folies que fit Jones en cette occasion, si nous étions bien assurés que le lecteur voulût aussi prendre la peine de le lire. Mais comme nous craignons qu'après tout le travail que nous aurait coûté la peinture de cette scène, le dit lecteur n'eût quelque propension à ne pas la lire, nous nous sommes épargnés cet embarras. S'il faut tout dire, c'est par cette seule raison que nous nous sommes fait la très grande violence de mettre des bornes à l'extrême fécondité de notre génie, et que nous avons retranché de notre ouvrage une foule d'excellentes descriptions qui s'y seraient trouvées sans cela. Et ce soupçon, il faut avoir l'honnêteté d'en convenir, provient, ce qui arrive assez généralement, de la corruption de notre cœur, car il nous est arrivé à nous-mêmes de nous trouver dans l'affreuse nécessité de sauter un grand nombre de pages en parcourant nos historiens volumineux. Il nous suffira donc de dire tout simplement que Jones, après avoir joué le rôle d'un fou pendant quelques moments, revint peu à peu à lui-même, et qu'ensuite, se tournant vers Partridge, il lui demanda franchement pardon de la manière dont il l'avait traité dans la violence de sa colère. Mais il finit par le prier de ne plus lui reparler de son retour, car il était résolu de ne jamais revoir le lieu où il était né. Partridge pardonna sans peine et promit de tout cœur d'obéir à l'injonction qui venait de lui être faite. Jones alors s'écria vivement, « Puisqu'il m'est absolument impossible de suivre plus loin les traces de mon ange, je veux suivre celles de la gloire. Allons, mon brave garçon, partons sur le champ pour l'armée. C'est une cause glorieuse pour laquelle je sacrifierai volontairement ma vie, même quand j'estimerais qu'elle valut la peine d'être conservée. » En disant ces mots, il prit sur le champ la route contraire à celle que M. Weston avait suivie, et par un pur hasard, il se trouva dans celle que Sophie avait prise. Nos voyageurs marchèrent un mille entier sans se dire un seul mot, quoique Jones murmura je ne sais quoi entre ses dents. Quant à Partridge, il gardait le plus profond silence, car il n'était peut-être pas parfaitement revenu de son premier effroi. D'ailleurs, il craignait de provoquer son ami à un second accès de fureur, d'autant plus qu'il commençait à former un soupçon qui ne causera pas peut-être beaucoup d'étonnement au lecteur. En un mot, il commençait à croire que Jones était absolument fou. Enfin, Jones, fatigué de son monologue, s'adressa à son compagnon et lui reprocha sa taciturnité. Le pauvre homme s'en excusa très honnêtement sur sa crainte de l'offenser. Jones, ayant de son mieux dissipé cette crainte par les promesses les plus fortes, Partridge redonna l'essor à sa langue, qui peut-être n'eut pas moins de plaisir à recouvrer sa liberté qu'un jeune poulain à qui l'on ôte la bride du col et qu'on lâche dans un pâturage. Comme il était interdit à Partridge de reprendre le sujet qui l'intéressait le plus, il se mit à traiter celui qui tenait immédiatement après le premier rang dans son esprit, je veux dire l'homme de la colline. « Certainement, monsieur, dit-il, il n'a jamais existé d'homme qui s'habille et vive d'une manière si étrange et si différente des autres hommes. D'ailleurs, sa nourriture, comme dit la vieille femme, est presque entièrement d'herbage, et c'est plutôt celle d'un cheval que d'un chrétien. De plus, l'aubergiste d'Upton prétend que tous les voisins ont de lui des idées très effrayantes. Il me roule dans la tête une pensée assez singulière, c'est que ce doit être quelque esprit qui peut-être nous aura été envoyé pour nous donner un avertissement utile. Et qui sait si tout ce qu'il nous a raconté du combat où il a été, du malheur qu'il a eu d'y être fait prisonnier, du grand danger qu'il a couru d'être pendu, n'était pas une sorte d'avertissement pour nous dans la circonstance où nous nous trouvons. Ajoutez à cela que je n'ai rêvé que de combat toute la nuit dernière et qu'il me semblait que le sang coulait de mon nez comme le vin d'un robinet. En vérité, monsieur, « Infandum regina, iubes renovare dolorem. » Ton histoire, Partridge, répondit Jones, est presque aussi mal appliquée que ton latin. Rien ne doit arriver plus probablement que la mort à ceux qui vont au combat. Peut-être y succomberons-nous tous deux, et qu'importe. Qu'importe, reprit Partridge, comment donc? Quand je serai mort, tout sera fini pour moi. Que m'importe la cause pour laquelle on se bat, ou de quel côté restera la victoire? Si je suis tué, je n'en tirerai aucun avantage. Toutes les sonneries de cloches, tous les feux d'artifice ne sont plus rien pour celui qui est à 6 pieds sous terre. Ce sera donc la fin du pauvre Partridge? Et la fin du pauvre Partridge, s'écria Jones, ne doit-elle pas arriver un jour ou l'autre? Puisque vous aimez le latin, je vais vous dire quelques beaux vers d'Horace qui inspireraient du courage aux plus poltrons. Dulce et decorum est propratria mori. Mors et fugacem persequitur virum, nec parsit imbellis juvente, poplitibus timido quetergo. Je vous prie de m'en faire la traduction, dit Partridge, car Horace est un auteur difficile, et je ne puis comprendre ses vers de la manière dont vous les récitez. Je vais t'en dire une mauvaise imitation, ou plutôt une paraphrase de ma façon, dit Jones. Car je ne suis qu'un poète médiocre. Il est doux, il est beau de mourir pour la gloire, à son pays heureux de laisser la victoire. Dans l'ardeur des combats, la cruelle Atropos poursuit d'un pas égal le lâche et le héros. Cela est très certain, dit Partridge. Oui, sans doute, mors omnibus communis, la mort est pour tout le monde. Mais il y a une grande différence entre mourir dans son lit après un grand nombre d'années, comme de bons chrétiens, au milieu de tous nos amis qui pleurent autour de nous, ou d'être tué d'un coup de fusil aujourd'hui ou demain, comme un chien enragé, ou peut-être haché en 20 morceaux à coups de sabre, et cela avant de nous être repentis de tous nos péchés. Ô Dieu, ayez pitié de nous. Il faut convenir que les soldats sont une méchante race d'hommes. Je n'ai jamais aimé avoir affaire avec eux. J'ai toujours eu de la peine à les regarder comme des chrétiens. On n'entend parmi eux que des jurements et des imprécations. Je désire que monsieur se repente de son projet. Je souhaite de tout mon cœur que vous vous en repentiez avant qu'il soit trop tard et que vous ne pensiez plus à aller vous fourrer parmi eux. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Voilà ma principale raison. Or, quant à ce que nous disions tout à l'heure, je n'ai pas plus peur qu'un autre, non. Quant à cela, je sais que tout homme doit mourir. Mais cela n'empêche pas qu'un homme ne puisse vivre un grand nombre d'années. Moi, par exemple, je suis un homme d'âge mûr, et je puis vivre encore longtemps. J'ai lu qu'il y avait des gens qui avaient vécu 100 ans, et quelques-uns, en assez grande quantité, par-delà 100 ans. Non que j'espère, je veux dire que je me promette d'arriver à ce grand âge, mais quand je n'irai qu'à 80 ou 90, le ciel en soit loué, ce serait encore avoir fait un beau chemin. Je n'ai pas plus peur de mourir qu'un autre, mais sûrement, tenter la mort, avant que notre heure soit venue, me paraît une audace et une impiété affreuse. Encore, s'il en devait résulter quelque bien. Mais quelle que soit la cause pour laquelle on se bat, quel grand bien peuvent y faire deux personnes? Quant à moi, je n'y entends rien du tout. Je n'ai pas tiré un coup de fusil 10 fois en ma vie, encore il n'était pas chargé à balles. Quant à l'épée, je n'ai jamais appris à faire des armes, et je ne saurais la manière de m'en servir. Et puis il y a des canons sur le chemin desquels on peut bien dire qu'on ne peut aller se fourrer sans la présomption la plus impardonnable. Il n'y a qu'un fou. Je vous demande pardon, sur mon âme je n'avais pas le projet de vous offenser. N'allez pas vous mettre une seconde fois en colère, je vous en conjure. Ne crains rien, Partridge, dit Jones, je suis maintenant si bien convaincu de ta poltronnerie que tu ne peux plus m'offenser en aucune façon. Monsieur, répondit-il, peut m'appeler poltron ou tout ce qui lui plaira. Si un homme est un lâche pour aimer à dormir dans sa peau tout entière, non immunes habilis malis sumus. Nous ne sommes pas exempts de ce défaut. Je n'ai jamais lu dans la grammaire qu'un homme ne puisse être un homme de bien sans combattre. Quel est l'homme vertueux? Celui qui suit les conseils de ses pairs, qui observe les lois et les usages de son pays. Pas un mot de combat. Et je suis sûr que l'Écriture est entièrement contraire à cette manie. Qu'un homme ne me persuadera jamais qu'il soit bon chrétien, tandis qu'il verse le sang des chrétiens.